Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à ce journal. Insécurité au Burkina Faso, seulement 105% du territoire national est sous contrôle selon le Premier ministre. Il était face aux députés de la transition hier. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai. Qui dit 31 mai dit journée mondiale sans tabac. À cette occasion, nous vous faisons découvrir dans un instant le centre de sévrage tabagique où sont pris en charge les patients désirant arrêter de fumer. Et puis, discours sur la situation de la nation du Premier ministre. On en parle justement avec notre invité du jour, Richard Jacques Barrault. Il est le secrétaire général de l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Ce sera enfin de journal. Et nous débutons par le discours sur la situation nationale. Le Premier ministre donc Kapolnay Kilem qui était face aux députés de la transition hier, selon lui, sur la situation sécuritaire, seulement 65% du territoire national est sous contrôle et 20% reste difficile d'accès pour les forces de défense et de sécurité. Pour le point sur la question sécuritaire, nous retrouvons Moumouni Tamboura.
C'est un discours triomphal. Essentiellement axé sur la sécurité. Pour Apollinaire Kelem, le Burkina sous le capitaine Ibrahim Traoré, les choses s'améliorent, malgré le refus de certains partenaires de fournir le pays en armement. En plus, l'armée burkinabé jusque-là était démunie face à la situation, selon le chef du gouvernement. Une réorganisation était nécessaire.
Personne aujourd'hui, à moins d'avoir perdu le sens des réalités, ne peut nier l'évidence. La peur a changé de camp. Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu'ils se le tiennent pour dit. La puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées. Il faudra qu'à l'avenir, le Burkina devienne une citadelle imprenable pour tous ceux qui rêveraient de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité et à sa souveraineté.
Le chantier reste vaste, avec près du tiers du territoire dont le contrôle n'est pas entier selon Kilem. Pour changer la donne, des efforts d'équipement ont été consentis avec des partenaires plus disposés à soutenir le Burkina.
Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle pour aller au front. Comment dans ces conditions être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'intelligence du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles.
Dans ce contexte, pas question de négocier, assure le patron du gouvernement qui annonce un renforcement des effectifs des volontaires pour la défense de la patrie.
La seule négociation qui vaille avec les bandits armés est celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille. Nous ne négocierons jamais ni l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ni sa souveraineté. Notre ambition est de porter le nombre des VDP à 100 000, et même au-delà, afin que les populations, en tout temps, soient en mesure d'assurer elles-mêmes leur propre sécurité.
L'objectif reste le même, reconquérir l'entièreté du territoire burkinabé et ramener les déplacés chez eux. Sur ce sujet, le Premier ministre a indiqué que plus de 125 000 personnes déplacées ont pu retrouver leur foyer.
Il n'y aura pas d'élection au Burkina Faso sans une meilleure condition sécuritaire. C'est ce qu'a signifié le Premier ministre Apollinaire Kilem hier à l'Assemblée législative de la transition. Nous vous proposons un extrait.
Il faut dire que pour moi, il n'y a pas d'élection sans sécurité. On ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Ceux qui veulent des élections rapides, même demain, nous pouvons l'organiser s'ils assurent la sécurité du Burkina Faso. Même demain, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à organiser les élections, même demain, si vous assurez la sécurité des paysans, des électeurs, des organisateurs des élections. Et si vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de perturbation, nous sommes prêts aux élections. Donc ceux qui sont pressés d'aller aux élections, qui nous aident à garantir la sécurité le plus tôt possible, Et puis nous, on organise les élections, on vous remet vos affaires. C'est tout. Mais il faut qu'on soit sûr que tout le monde va participer. En tout cas, la majorité. Sinon, ce seront des élections aussitôt contestées, aussitôt organisées. Voilà. Donc, pour que les élections soient acceptées, il faut qu'au moins l'essentiel du pays puisse participer. Que l'essentiel de la population puisse participer. Si nous organisons des élections actuellement, alors qu'une partie du territoire est inaccessible, d'abord on va dire, mais celui qui est élu est mal élu. Il y a des députés qui ne pourront pas se faire élire parce qu'ils ne pourront pas se rendre dans leur territoire.
Reprocher de ne pas avoir un discours rassembleur par un député, Apollinaire Kelem persiste et a su n'avoir jamais voulu rassembler tout le monde. Place à présent aux réactions suite à son discours, le député Thomas Traoré, vice-président de la Commission Affaires étrangères, Défense et Sécurité de l'Assemblée législative de transition, donne son point de vue au micro de Gisèle Thirogo.
En ce qui concerne la déclaration du Premier ministre, je lui tire mon chapeau. Pourquoi ? Dans un premier temps, on ne peut pas parler de l'économie, du social, de l'artisanat et de tous les mots sans mettre la sécurité en avant. Et à partir de ce point de vue, je pense que le peuple païen est d'accord. Convenez avec moi que ici, cette déclaration, le Premier ministre, aujourd'hui, c'est pas de jour comme de nuit, comme tout autre Burkinabé, pour qu'on retrouve rapidement la sécurité et la stabilité dans notre pays afin d'aller aux élections. En ce qui concerne la question posée au Premier ministre relative à la fédération, je pense que le Premier ministre a donné également sa façon de réponse relative à la fédération. La fédération donne beaucoup plus de force au Burkina Faso, parce que quand vous êtes unis, quand on parle de l'union, c'est quoi? La fédération Mali, Burkina Faso et la Guinée, aujourd'hui, ça nous rend plus fort. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, nous regardons tous dans la même direction, qui est la protection de nos intérêts communs pour l'avenir radieux de nos populations.
L'ancien député Alexandre Sankara se prononce, lui, sur la question de la tenue des élections. Selon lui, la réaction du Premier ministre est juste, mais le gouvernement devrait situer la population sur l'état actuel du pays. Il a été joint par Irène Nikiema.
Tout le monde est d'accord, en tout cas, je le pense, que pour organiser des élections, il faut ramener la sécurité dans les pays. Maintenant, la question fondamentale, c'est quel est le niveau de sécurité qu'on doit atteindre pour dire, bon, maintenant, on peut aller aux élections. Est-ce qu'il y a un consensus national pour fixer ce niveau-là, pour dire, si on recouvre 100% de notre territoire, nous devons aller aux élections. Je crois que c'est ce consensus-là qui manque. Moi, j'invite le gouvernement à ouvrir les débats sur ce consensus. On doit pouvoir réunir société burkinabé, en tout cas pour ces quelques comptes de représentatifs, pour qu'ensemble, les gens ont dit, bon, voilà, nous sommes à un point A. Demain ou après-demain, si nous arrivons à un point B ou C, nous sommes capables d'aller aux élections, nous sommes capables d'adopter une nouvelle constitution. Tant qu'on ne fait pas ça, ça va toujours être des discours, oui, et les discours restent les discours. Donc moi, je suis parfaitement en phase avec le Premier ministre, mais je suis aussi pour que un consensus national qui va être atteint pour qu'on puisse organiser les élections.
Ondjaï Sanoudo Megabobo a prêté son micro aux populations de la ville de Bobo-Dioulasso pour se prononcer également sur cet exercice du Premier ministre. Écoutez plutôt.
Ce que j'ai retenu beaucoup, c'est le côté sécuritaire. Je suis d'avis avec lui parce que les députés ont posé des questions sur les routes, sur d'autres problèmes. Le développement passe par la route. Mais toujours est-il que tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne pourra pas emprunter.
Il y a eu des efforts parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. L'insécurité là, est palpable. Donc, il faut vraiment se pencher sur ça et laisser les discours.
Malheureusement, je n'ai pas suivi. Depuis que le coup d'État est revenu au Burkina, je me sens plus citoyen au Burkina. Donc tout ce qui concerne le discours du président, le discours du premier ministre, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai voté. Quelqu'un a pris ma voix par une arme et je ne peux pas tolérer ça. Si je ne regarde plus les réseaux sociaux parce que je suis énervé.
Elle a parlé de parité de partenaires sur le plan sécuritaire. Bon, c'est une bonne chose, mais nous savons tous qu'ils sont dans cette dynamique il y a longtemps. Mais ce qui est important chez nous, c'est comme il le dit chaque fois qu'il faut qu'on compte sur nous-mêmes, en recrutant plus dans l'armée, comme il a dit, comptant sur même la population. Tout le monde doit devenir VDP dans ce pays. Moi, je pense que la collaboration avec les autres pays, là, c'est pour nous donner uniquement l'équipement. Si on a les armes, si chaque Burkinabé peut avoir une arme, je pense qu'on peut se défendre.
Parce que le travail qui est fait là, on pensait réellement ça va. Par rapport à la coopération avec certains partenaires aussi. C'est juste, si on a un ami et qu'un jour l'ami vous lâche, vous ne voulez pas cheminer, c'est vous êtes obligé de chercher notre ami.
Ben, moi, je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait, c'est un très bon travail. Et on voit que le gouvernement a pris pleinement la mesure de la situation et la situation semble être sous contrôle. Je crois que, en tout cas, nous, on peut les encourager. On est satisfait du travail qu'ils font. En tout cas, on est très content et qu'on demande à tout le peuple de soutenir le gouvernement, de soutenir notre président Ibrahim Traoré et que Dieu l'accompagne.
Radio Omega, nous sommes le 31 mai et c'est la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, une équipe d'Omega Média s'est rendue au centre de sévrage tabagique où sont pris en charge les patients désirant arrêter de fumer. Comment se fait la prise en charge de ces patients? Élément de réponse dans ce reportage signé Marina Traoré et Valérie Guéret.
Cela fait 9 jours que Amidou, nom d'emprunt, est hospitalisé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Il souffre d'une infection respiratoire favorisée par la cigarette.
J'ai mal beaucoup, je n'arrive pas à respirer.
En seulement 9 jours d'hospitalisation, il dit avoir dépensé près de 250 000 francs CFA. Il affirme avoir commencé à fumer à 14 ans, entraîné par ses amis. Aujourd'hui, il regrette et invite ceux qui s'y adonnent toujours à arrêter.
C'est la jeunesse. Je pouvais prendre 5 à 6 bâtons ou bien 10 bâtons. Mais au fur et à mesure, je peux terminer un paquet.
Parmi les autres raisons de fumer, on trouve les soucis, mais aussi la pression professionnelle ou sociale. Le tabagisme, ce n'est pas seulement une affaire d'hommes. Selon les spécialistes, de plus en plus de femmes fument au Burkina.
Il y a de plus en plus de fumeurs au niveau du sexe féminin. Maintenant, chez les femmes, c'est presque les mêmes causes que chez l'adulte, mais des femmes qui sont dans des situations de désespoir ou qui sont dans des activités comme la prostitution, les femmes qui sont dans à un niveau intellectuel très élevé où elles sont souvent déprimées, bon, ça peut les pousser souvent à prendre la cigarette.
Dès la première cigarette, la dépendance s'installe rapidement. S'en suivent les conséquences sur la santé, autant chez les fumeurs actifs que chez ceux passifs. Docteur Salif Paré, pneumologue.
Vous êtes par exemple une femme ou vous êtes un enfant de quelqu'un qui fume. Le chef de famille fume dans la maison. Donc, il rejette ces fumées qui sont toxiques et il est dit que ces fumées rejetées, même pas les fumées, sont plus toxiques que ce que lui-même il inhale. Donc, les fumeurs passifs peuvent effectivement développer à la longue les mêmes troubles respiratoires et ou même les lésions au niveau sur le plan respiratoire que le fumeur aussi va développer. Donc, si on prend le cas des enfants, il est dit que la fumée de cigarette se dépose à la longue sur le mur, sur les meubles. Et l'enfant qui est en contact avec ces résidus de fumée peut développer certaines affections respiratoires comme l'asthme.
À Ouagadougou, les patients voulant arrêter de fumer sont pris en charge au centre de sevrage tabagique. Docteur Eric Derma, médecin en spécialisation en pneumologie.
La personne décide d'arrêter et nous pouvons lui apporter des substituts nicotiniques pour gérer la dépendance et également l'accompagner dans les signes où il y a de l'irritabilité, où il y a des insomnies.
La journée mondiale sans tabac est commémorée cette année sous le thème « Cultivons des aliments, pas du tabac ».
Et puis l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, débute demain sur toute l'étendue du territoire national. Dans les différentes directions régionales, l'on s'active pour que tout se déroule normalement malgré la situation sécuritaire qui touche plusieurs localités. Au centre ouest, ce sont près de 22 000 élèves qui s'alignent pour le BEPC cette année, un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière. Au BEP brevet d'études et au CAP certificat d'études professionnelles, ils sont plus de 1300 CAP donc. Le point des préparatifs de ces examens de fin d'année avec Sabuna Ouédraogo.
Cette année, la région du centre-ouest présente des candidats moins nombreux que lors de la session de l'an dernier. Une baisse de près de 4000 candidats. Pour la session 2023, des dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen malgré l'insécurité dans certaines localités et un nouveau logiciel de sommation des notes qui enrhume certains acteurs. 21 944 candidats représenteront la région du centre-ouest dans cet examen du BPC. Après 8 mois de cours, l'heure est aux dernières révisions pour certains qui se disent prêts pour affronter les épreuves ce jeudi.
J'ai confiance en moi, j'aurai mon BPC avec une très bonne moyenne.
Bon, j'ai bien suivi les cours, traité des exercices, révisé les leçons, je n'ai pas...
En pareille circonstance, des postulants sont souvent pris par le stress et ont besoin du soutien de leurs parents. À ce propos, des conseils ne seront pas de trop pour les futurs brevetés du Centre-Ouest. Didier Paré, directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du Centre-Ouest.
Au 21 944 candidats du BEPC, aux 1057 du BEP et les 260 du CAP du Centre-Ouest, je vous invite à demeurer discipliné, confiant à vous abstenir de toute tentative de tricherie et de fraude. Nos espoirs reposent sur vous.
À l'issue de la session 2022 du breveté d'études du premier cycle, la région du Centre-Ouest a eu un taux de succès de 41,18% avec les 25 847 candidats qu'elle a présentés. Cette année, les premiers responsables en charge de cet enseignement espèrent que la région fera mieux. Sabuna Ouedraogo, Koutougou Radio Omega.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Et nous parlons du discours du Premier ministre sur la situation nationale avec notre invité du jour. Il est difficile, voire compliqué, de satisfaire tout le monde, mais on peut tendre vers en adoptant des postures moins tranchantes. C'est ce que pense notre invité Jacques Barrault. Il est le secrétaire général de l'Observatoire de production et d'analyse du discours, en abrégé OPAD. Il est interrogé par Brigitte Yoda.
Bonjour Jacques Barrault.
Bonjour.
Le Premier ministre, pour son deuxième discours devant l'Assemblée nationale, a fait le point de la situation. Après 6 mois de gouvernance, 125 000 déplacés internes sont retournés chez elles. Est-ce à dire que la situation va en s'améliorant? Du reste, comment avez-vous trouvé le discours du chef du gouvernement?
Le discours du chef du gouvernement est structuré en 4 grands points. La question concernant l'insécurité d'abord, la question humanitaire, la réconciliation et la refondation de l'État, un autre élément intitulé « Autres secteurs ». Donc sur le plan purement formel, quand on regarde cette structuration, 2 pages au niveau des questions humanitaires, 4 pages consacrées à ce qu'il a appelé « Autres secteurs » et puis 2 pages à la réconciliation et à la refondation de l'État. Donc sur le plan de cette structuration, on s'aperçoit qu'il y a 5 pages qui est consacrée à la question de l'insécurité, ce qui signifie un peu que le discours est un discours plus ou moins sécuro-centré, donc centré sur donc, la question sécuritaire. Vous dites également, est-ce que parmi donc, les 125 000 qui en fait, sont actuellement répartis, est-ce que cela signifie que la situation s'est améliorée? Je crois que lui-même, il a reconnu qu'il y a des actions, mais tout n'est pas encore parfait. Peut-être si les actions s'enchaînent, s'il y a beaucoup donc, d'efforts, d'ici là aussi, beaucoup plus donc, de déplacés en interne pourraient regagner leur localité d'origine.
Et revenons au discours, comment est-ce que vous avez trouvé le Premier ministre à ce niveau-là?
Il faut dire qu'il y a un volet qui concerne le discours à proprement parler, qui est l'adresse. Et à ce niveau, on peut dire que c'est un discours assez dialogique, c'est-à-dire que quand on lit bien le discours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lieux communs. Il revient sur des idées qui ont déjà été, on va dire, énoncées par lui-même, soit par d'autres locuteurs ou encore même par d'autres membres de son gouvernement. Donc si on regarde très bien dans la structuration, on se rend compte que c'est un discours souverainiste et cette image discursive qui est axée sur la souveraineté est une image qu'on retrouve effectivement à la fois chez le président qui, à chaque fois qu'il parle, évoque cette question de la souveraineté. Quand on regarde également le discours de la ministre donc, des Affaires étrangères, chaque fois également quand elle parle de la souveraineté du Burkina. Et cela aussi est visible chez donc, le porte-parole du gouvernement ainsi que le ministre d'État, chef de la fonction publique. Donc c'est de façon globale, il y a une cohérence entre cet état souverainiste qu'il dégage dans son discours et justement la politique globale même du gouvernement dans son ensemble.
Dans ce langage souverainiste, il y a encore des accusations de la part du gouvernement envers certains partenaires. Est-ce que le Burkina doit continuer dans cette posture de victimisation? N'est-ce pas un aveu d'impuissance?
Effectivement, on reconnaît que cette logique souverainiste est accompagnée donc d'un discours polémique qui effectivement accuse. Et il faut aussi noter que cette logique souverainiste s'accompagne quelque part d'un discours appelant, on va dire, révolutionnaire. Or, le discours révolutionnaire classique tel qu'on le connaît est un discours assez polarisé, un discours polémique, et donc qui est dans l'opposition donc des partis. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le discours, il catégorise donc les rêveurs, ceux qui sont grands, qui rêvent grand, et justement les petits esprits qui éventuellement ne peuvent pas penser grand. Donc lorsque effectivement il parle de petits esprits, vous avez donc remarqué que c'est un peu en lien avec la question fédéraliste, où effectivement il avait déjà énoncé qu'il était bien que les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens se concertent pour aller à une fédération. Et pour lui, effectivement, il faut rêver.
Alors, on sait que le Premier ministre ne mâche pas ses mots. Il assume ses propos. Je ne suis pas là pour rassembler tout le monde. On n'est pas un empire. On se rassemble avec ceux qui ont la même vision que vous. Quel commentaire avez-vous à faire par rapport à la posture et au ton? Est-ce que cette sortie du Premier ministre à l'Assemblée rassure davantage? Est-ce qu'il rassemble les Burkinabés?
Bon, je crois que cette question même a été posée par un député et qui disait effectivement que ce n'est pas un discours assez rassurant, rassembleur. Et il a aussi à répondre à cette question. Ça, c'est une question qui peut en fait être posée effectivement. Et comme il y a une question de bipolarisation de son discours, éventuellement ceux qui vont se sentir un peu indexés ne peuvent pas se reconnaître en fait dans cette façon donc de poser donc les problèmes. Par contre, ceux qui se reconnaissent dans cette logique souverainiste vont éventuellement peut-être comprendre pourquoi il dit en fait que il n'est pas question de négocier, de brader, on va dire, donc l'intégrité donc du territoire burkinabé. Mais on pouvait trouver effectivement, si on veut être dans la logique diplomatique, trouver donc d'autres types de langage. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas quelqu'un qui parle avec la langue du bois.
Justement, dans ce contexte, quel type de langage est approprié? En d'autres termes, quelle posture nos dirigeants doivent-ils avoir pour ne pas frustrer qui que ce soit?
Il faut être franc, ça c'est vrai. On peut être ferme, mais laisser des ouvertures à ceux qui ne sont pas tous dans la même logique. On peut donc laisser une fenêtre. Il aurait peut-être pu appeler toujours donc ceux qui sont en rupture de banc pour pouvoir donc regagner donc la maison et afin qu'on puisse construire donc le pays qui nous est en fait cher. Je pense qu'il a peut-être plus ou moins compris lors des questions quand il est revenu en disant que non, effectivement, ce n'est pas qu'on est contre tout le monde, mais c'est ceux qui ont pris les armes contre la patrie. C'est avec eux qu'on ne peut pas donc justement négocier.
Jacques Barrault, merci.
Je vous en prie, merci.
Voilà, vous l'aurez compris, sinon sur FM, ce journal, à l'instant, notre invité Jacques Barrault, il est le secrétaire général de l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Denise Ungrana pour la présentation, Bernadette Parmogda pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.